The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
Bonjour, dans le fil de l'histoire, aujourd'hui, troisième épisode de notre série consacrée à Hiroshima. Toujours en compagnie de l'historien Olivier Vieviorca, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Dans les épisodes précédents, nous avons vu qu'en juillet 1945, le Japon refuse toujours de capituler. Les Alliés, eux, veulent en finir. Pour le président américain Truman, la bombe atomique, dont le premier modèle vient tout juste d'être expérimenté, représente la solution.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
6 août 1945, il est près de 3 heures du matin, lorsque trois bombardiers américains décollent de la base de Tinian dans les îles Mariannes, un archipel du Pacifique Est. Ils s'envolent vers le nord, en direction du Japon, à environ 6 heures de vol. Deux avions sont là pour prendre des mesures et des photos. Le troisième, commandé par le pilote Paul Tibbets, est celui qui, dans la soute, transporte la bombe A, surnommée Little Boy, longue de 3 mètres, 70 cm de diamètre, la bombe à l'uranium pèse plus de 4 tonnes. Le décollage a été précédé d'un certain cérémonial. Le chaplain de la base, George Zabelka, a prononcé une prière.
Nous vous prions que la fin de la guerre arrive bientôt et que de nouveau nous puissions connaître l'ordre de la paix. Que les hommes qui s'envolent soient placés sous votre protection et qu'ils nous reviennent sains et saufs. Nous continuerons, confiants en vous, sachant que nous sommes sous votre garde pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
On l'apprendra plus tard, ce prêtre, qui 3 jours plus tard priera aussi pour la mission de Nagasaki, quand il aura compris ce que les civils japonais ont subi, s'en voudra toute sa vie d'avoir béni ces deux bombardements atomiques. Avant le décollage, Paul Tibbets, qui a reçu cette mission spéciale comme un honneur, a demandé à un camarade de peindre sur la carlingue le surnom qu'il a donné à son avion, Enola Gay, du nom de sa mère qu'il adore. Entre parenthèses, en 2025, ce nom, curieusement, a le malheur de déplaire au gouvernement américain. L'administration Trump, qui pourchasse ce qu'elle appelle l'idéologie de genre, ordonne la suppression dans les sites officiels de la mention de l'Enola Gay, à cause, bien sûr, du mot « gay ». Mais revenons au 6 août 1945. Pour le décollage, le général Leslie Groves, qui dirige le projet Manhattan, a ordonné que l'événement historique soit photographié et filmé. Une photo célèbre montre le commandant Tibbets à bord de l'Enola Gay, tout sourire aux caméras, alors qu'il s'apprête à décoller et à aller larguer une bombe qui va provoquer la mort de près de 200 000 personnes. C'est seulement en cours de vol que les pilotes sont informés que leur cible sera Hiroshima. Initialement, les Américains avaient choisi Kyoto, l'ancienne capitale du Japon. Mais Henry Stimson, le secrétaire à la guerre, a rejeté ce choix, car jeune marié, il avait passé sa lune de miel à Kyoto. Le destin de dizaines de milliers de vies dépend parfois de choses triviales. On opte alors pour Hiroshima, une ville au sud du Japon qui possède une importante base logistique de l'armée. Et par malchance pour ses 300 000 habitants, le temps est clair ce jour-là sur Hiroshima. Il est 8h15 lorsque l'Enola Gay arrive au-dessus d'Hiroshima. Les portes de la soute s'ouvrent, la bombe est larguée. Après 42 secondes de chute libre, elle explose à 600 mètres au-dessus du centre-ville, libérant une énergie équivalente à 15 000 tonnes de TNT. Les trois B-29 s'empressent de quitter la zone. Mais avant, avec des lunettes spéciales, Paul Tibbets contemple le spectacle.
L'opération avait réussi. Ce que nous voyons était bien au-delà de ce à quoi nous nous attendions. On voyait un nuage de poussière et de débris, et au-dessus, un champignon terrifiant. En dessous étaient cachées les ruines d'Hiroshima.
Les trois B-29 rentrent sans encombre à Tinian, où ils sont reçus en héros. Olivier Vieviorca, comment expliquer cette atmosphère joyeuse au moment de larguer la bombe atomique, synonyme toujours pour nous d'apocalypse? Est-ce que c'est un désir de vengeance ou une ignorance de la force particulière de cette bombe?
Je crois que tous ces éléments se mêlent. Vous avez effectivement un désir de vengeance que l'on trouve dans le journal de Truman, en disant que les Japonais se sont conduits comme des bêtes féroces, et donc on peut se conduire aussi à leur égard comme des bêtes féroces.
À cause de Pearl Harbor ?
À cause de Pearl Harbor, et à cause des mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre. Donc tous ces éléments ont joué. Autre élément, vous avez une très grande joie dans les milieux scientifiques à Los Alamos, tout simplement parce qu'on ignorait si la bombe marcherait. Oui, ça a marché. Donc vous avez effectivement la satisfaction de voir que tous les efforts sont couronnés de succès. L'idée aussi, c'est que avec cette bombe d'une puissance aussi incroyable, le Japon ne va pas tarder à déposer les armes. Or, toute la population attend avec fièvre aux États-Unis la fin des hostilités.
Parce qu'il y a beaucoup de morts américains dans cette guerre. Et pas seulement américains d'ailleurs.
Alors, vous avez effectivement beaucoup de morts, mais il faut rappeler que la Seconde Guerre mondiale, pour les États-Unis, a provoqué 400 000 morts, ce qui est infiniment peu par rapport à la guerre de sécession. Donc, du point de vue, si vous voulez, des pertes humaines, les 400 000 morts américains, qui sont bien évidemment un lourd tribut acquitté au dieu Mars, doivent aussi se comparer, par exemple, aux 1,3 million de morts que les Français ont subis en 14-18. Donc, le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis n'a rien à voir avec ce qu'il est, par exemple, en Union soviétique ou en Chine.
Le 6 août 1945, donc quelques heures après le largage de la bombe à Hiroshima, le président des États-Unis, Harry Truman, annonce la nouvelle à la radio.
Un avion américain vient de larguer une bombe sur Hiroshima, détruisant ainsi toute capacité pour l'ennemi. Cette bombe a plus de puissance que 20 000 tonnes de TNT. Les Japonais ont commencé la guerre depuis les airs à Pearl Harbor. Ils ont été largement remboursés. Et ce n'est pas encore fini. Avec cette bombe, nous avons rajouté une nouvelle et révolutionnaire augmentation de destruction pour compléter la puissance croissante de nos forces armées. Sous leur forme actuelle, ces bombes sont actuellement en production et des formes encore plus puissantes sont en cours de développement. C'est une bombe atomique. Il s'agit d'exploiter la puissance fondamentale de l'univers. La force dont le Soleil tire sa puissance a été lâchée contre ceux qui ont apporté la guerre en Asie.
Harry Truman, donc, s'exprimant à la radio le 6 août 1945, quelques heures seulement après le largage de la bombe à Hiroshima. Alors, ce n'est qu'un extrait de son discours. Truman, on l'a entendu, annonce avec fierté avoir répondu à l'insulte japonaise de Pearl Harbor. Il fait l'éloge de la prouesse américaine, à la fois scientifique, industrielle et militaire, que représente cette bombe atomique. Comment comprendre ce discours, Olivier Vievorka ? Que dit-il et que ne dit-il pas ?
Le président pense que la guerre va s'interrompre parce que l'arme utilisée est d'une puissance, il le souligne, absolument incroyable. Donc le grand espoir, effectivement, de la Maison-Blanche, c'est que le Japon dépose les armes. Or, vous l'avez souligné, l'annonce de la capitulation japonaise n'interviendra que le 15 août, c'est-à-dire 9 jours après, ce qui est un long délai.
Merci Olivier Vievorka. Dans le prochain épisode, nous verrons ce que le pilote qui a largué la bombe, Paul Tibbets, n'a pas vu, l'enfer vécu par les habitants d'Hiroshima, et comment le gouvernement japonais va réagir. Nous verrons aussi que, contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas Hiroshima qui va amener le Japon à capituler. Il faudra attendre plus d'une semaine pour que l'empereur Hirohito annonce à son peuple la défaite. Nous verrons pour quelles raisons.